Nous sommes aujourd'hui face à un texte qui est un peu plus dur que ce que nous avons déjà entendu les semaines passées où on avait des appels à la conversion. Et ici, on a une sentence qui est posée. On est face en fait à un texte qui est historique. On vient là toucher un élément très particulier de l'histoire sainte. Parce que si vous avez peut-être eu la curiosité de regarder les versets qui suivent notre passage dans l'Évangile selon saint Matthieu, il nous est précisé à qui cela s'adresse. Il nous est précisé les personnes à qui Jésus s'adresse avec cette parabole. Je vous lis ces versets. Les grands prêtres et les pharisiens, en entendant ces paroles, comprirent bien que Jésus les visait. Mais tout en cherchant à l'arrêter, ils eurent peur des foules, car elle le tenait pour un prophète. Voilà que Jésus est en train de porter une sentence contre les chefs du peuple, contre les grands prêtres, contre les scribes et les pharisiens. Alors, comment comprendre cela ? Vous savez que Dieu est intervenu dans notre histoire. C'est la particularité, vraiment, de la révélation judéo-chrétienne. C'est qu'on n'est pas face à une espèce de Dieu intemporel, un Dieu qui n'aurait pas de prise dans le monde, comme dans les mythes grecs, les mythes égyptiens ou babyloniens, c'est intemporel. L'histoire d'Israël, ça s'est passé dans notre histoire, sur notre terre. Il a foulé notre terre, il s'est révélé au personnage de l'histoire. Et Dieu avait organisé son peuple avec des grands prêtres, des chefs et des scribes pour permettre au peuple d'accueillir le Messie, pour se préparer à l'accueil du Messie, à l'accueil du Sauveur. Or, voilà que malgré les prophètes que le Seigneur a envoyés jusqu'à Jean-Baptiste, le dernier des prophètes, les grands prêtres, les scribes et les pharisiens, au lieu d'aider le peuple à reconnaître Jésus, deviennent des obstacles. Et des obstacles, j'allais dire, même dangereux. Ils veulent mettre Jésus à mort. Et s'ils ne le font pas tout de suite, c'est qu'ils ont peur de la foule. Eh bien, le Seigneur vient relever ces comportements et vient relever cet endurcissement. Alors, c'est jamais très agréable à entendre, mais vous savez que ça fait partie de la pédagogie, ça fait partie de l'éducation. Quand vous devez éduquer un enfant, il faut lui mettre des limites. Et quand vous lui mettez des limites, vraisemblablement, il y a des moments où il va les tester pour voir, tu m'as dit de pas faire ça. C'est vrai? Ou si je le fais, il se passe rien? Parce que s'il se passe rien, ben je vais continuer, hein, après tout. Et on voit bien la difficulté de la chose. Il y a un moment où, et c'est ça qui n'est pas très agréable quand on est justement en responsabilité, c'est qu'il va falloir hausser le ton, il va falloir mettre un holà, il va falloir peut-être même donner une punition. Et l'objectif, c'est justement la vie de la personne, la juste vie de la personne, mais aussi la juste vie de la communauté. Quand vous apprenez à quelqu'un, à un enfant, à ne pas voler, vous allez apprendre déjà simplement, si tu désires quelque chose qui ne t'appartient pas, ben tu vas demander la permission de le prendre. Parce que, et on va lui expliquer le sens, si tu ne le fais pas, c'est juste la loi du plus fort. Alors, moi je prends ce que je veux, je demande à personne. Ah ouais, ben tu vas voir, il y a quelqu'un qui sera un jour plus fort que toi, il va te prendre ce que tu as. Et non seulement cette loi du plus fort, ça va transformer notre communauté, notre cité en jungle, mais en plus, ça empêche également la générosité de s'exercer. Parce que tu lui aurais demandé, il t'aurait peut-être dit oui, tu peux le prendre. Tu l'as empêché en plus de vivre de la générosité. Et donc, parfois, justement, on ne veut pas comprendre, on est pris dans notre désir de posséder. Et alors, il va falloir ajouter parfois une punition. Je prends un exemple un peu stupide. Tu as pris mon manteau sans me le demander, j'avais besoin de ce manteau pour mon rendez-vous. Du coup, je l'ai cherché partout, je suis arrivé à mon rendez-vous, ça s'est passé dans de mauvaises conditions. Si tu ne comprends pas que tu m'as fait perdre ce temps, tu m'as fait perdre cette disponibilité, de la même façon que tu m'as empêché de sortir à temps, tu vas emporter une conséquence, la prochaine sortie que tu voulais faire, tu ne sortiras pas. Si tu comprends qu'il y a une gêne qui a été provoquée, je te donne de goûter à une gêne qui a été provoquée. C'est un aspect qui n'est pas très agréable, mais qui fait partie de la pédagogie et qui est vécu par Dieu aussi dans l'histoire. Et là, l'histoire, c'est accueillir le Seigneur Jésus, accueillir le Sauveur. Et les grands prêtres sont dans une tentation de « nous allons supprimer l'héritier, Jésus, pour conserver l'héritage, pour conserver notre position. Les gens nous écoutent, les gens nous honorent, et je veux conserver ma position. Il n'y a pas de place pour toi. » Et vous voyez que ce comportement, c'est quelque chose qui menace aussi notre cœur. Il y a quelque chose qui n'est pas simplement... c'était les grands prêtres, c'était leur problème, mais quel est le rapport à nous maintenant? Parce que qu'est-ce que ça veut dire quand on dit « il n'y a pas de place pour toi au Christ » Ça veut dire qu'il y a des éléments dans notre vie où nous disons « en fait, Seigneur, il n'y a pas de place pour toi là. Il n'y a pas de place pour toi dans ce pan de ma vie. Je ne veux pas de toi. » Et derrière, j'ai l'illusion en fait que le Seigneur et ses exigences, ça m'empêche de profiter de la vie, franchement. Seigneur, ce que tu demandes, t'exigeant. Moi, j'avais envie d'en profiter, j'avais envie de jouir librement. Et toi, avec tout ce que tu demandes, c'est très vexant. Tu réduis le champ de mes possibilités, ça va pas du tout. Et donc, là-dessus, je dis, je veux pas t'entendre, je veux pas que tu aies de place. Il y a cette illusion que, finalement, Dieu nous empêche de vivre pleinement. Alors que cette illusion... On en a une trace justement dans notre cœur, c'est que vous avez peut-être remarqué que dans notre cœur, il y a un désir de quelque chose de grand, et ce désir de quelque chose de grand, il ne s'apaise en fait que dans la rencontre de Dieu, et dans la rencontre de Dieu parfois à travers le prochain. Et quand on n'a pas cette rencontre, eh bien on va chercher dans les biens du monde, dans les objets du monde, à trouver cette satisfaction, et en fait elle nous échappe toujours. J'en donne quelques exemples très simples. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Vous étiez peut-être sur Internet, vous regardez des vidéos, et elles s'enchaînent les unes après les autres. Vous n'arrivez pas à vous arrêter. Vous pensiez que vous alliez en regarder deux, non, vous en êtes déjà à 10. Et qu'est-ce qui se passe? Mais vous dites, mais la prochaine, ce sera la bonne. Là, j'aurai vu la prochaine, et enfin, je serai apaisé. Et non, c'est toujours pas encore plus. Ou bien peut-être que vous avez fait ça avec des biscuits chocolatés, peut-être c'est autre chose. Vous avez mangé un, vous dites, bon, oui, trois c'est bien. En fait, il y en avait 26 dans le paquet, maintenant vous en êtes à 25. Et puis, bon, il n'en reste qu'un, 26. Et non seulement vous n'êtes pas vraiment apaisé, c'est juste qu'il n'y a plus de biscuits dans le paquet, mais en plus vous avez mal au ventre ensuite. Il y a eu quelque chose, je cherche cet apaisement, mais je ne le cherche pas là, où je peux le recevoir. J'ai cru justement, Seigneur, tu m'empêches de jouir et je vais faire ça de mon côté, avec les moyens, je vais extorquer au monde ou extorquer à mon propre corps les éléments de jouissance. Et en fait, mon cœur demeure sans repos, mon cœur demeure insatisfait. C'est contre ça que le Seigneur intervient. Et c'est ce que saint Augustin disait, Seigneur, mon cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en toi. Alors parfois nous avons fait cette expérience, on a participé à un service, on a participé à une visite de malade, on a participé à un jeu organisé pour les enfants, on en est revenu, le cœur réjouit. Ce que j'ai fait, c'était bien. Ce que j'ai fait a rempli mon cœur. Donc cette expérience, en fait, c'est vraiment le Seigneur qui vient à notre rencontre parce que c'est lui seul qui peut apaiser notre cœur et il nous délivre de cette illusion de croire « Non, il n'y a pas de place pour toi parce que tu réduis mon monde, tu réduis ma capacité de profiter de la vie. » C'est tout le contraire. Et du coup, aujourd'hui, ça nous amène peut-être à une réflexion de nous dire « Est-ce qu'il y a dans ma vie, est-ce qu'il n'y a pas dans ma vie des moments où, en fait, je dis « Seigneur, il n'y a pas de place pour toi ?» Alors, il y en a quand même des moments où il y a de la place, sinon je ne serais pas là à l'église quand même, c'est vrai. Mais il y a des lieux où dans ma vie, il n'y a pas de place pour toi. Quand on est enfant, c'est parfois au moment de la prière familiale, on se dit, ah, j'étais en train de lire mon livre, j'étais en train de regarder mon écran, j'étais en train de... Non, il n'y a pas de place pour ça. alors qu'il y a un moment où on va se retrouver en famille devant Dieu, appeler la bénédiction de Dieu sur chacun de nous, rendre grâce au Seigneur parce qu'on peut être ensemble. Et j'ai l'impression, non, il n'y a pas de place pour toi, je ne veux pas. Et je fais tout mon possible pour être ailleurs, pour gêner ce qui est en train de se faire. Ben, je suis un peu là comme ces vignerons qui disent, il n'y a pas de place pour toi. Quand on est adulte, c'est parfois dans notre travail, la façon dont on se comporte. Il y a des zones grises, parfois c'est par rapport aux biens qui nous sont donnés, où je dis, bon, ça appartient à l'entreprise, ça appartient à tout le monde. Si j'emporte des crayons, des objets chez moi, pas grave, non ? Tout le monde le fait. Pas quelque chose de juste. Parfois, il y en a d'autres qui, pour avancer, ils utilisent calomnie, mensonge. Est-ce que je vais utiliser les armes du diable pour avancer ? Ou est-ce que je vais demeurer dans la justice et la vérité ? Parfois, c'est quand je suis au volant, hein, tout simplement, où je me dis, non, à partir du moment où je suis en volant, tout doit aller à ma vitesse. Je dois gagner, et donc tant pis pour les règles de sécurité pour les autres. Là encore, je suis en train de dire, il n'y a pas de place pour toi. Quels sont ces lieux où, dans ma vie, j'estime que ce que tu me demandes, Seigneur, non, non, ça ne va pas, il n'y a pas de place. Parce que, alors, nous risquons, j'allais dire, de tomber sous la même condamnation que les chefs du peuple. Alors vous allez me dire, pour la fête de Notre-Dame du Travail, vous n'êtes pas très gai, mon père. On espérait quelque chose qui nous réjouisse. Mais je voudrais quand même dire une autre chose. Si justement vous vous rendez compte qu'il y a des points que vous identifiez comme étant bloqués, vous dites, je l'ai vu, mais j'arrive pas à avancer. Alors, je vais vous dire, si vous l'avez vu, réjouissez-vous. Eh bien, c'est bizarre, ça. J'avais plutôt l'impression que ça devait me plomber. Non, réjouissez-vous, parce que la première œuvre de libération que fait le Seigneur, c'est de dévoiler les lieux où nous sommes endurcis. Parce qu'à partir du moment où vous les avez vus, vous allez pouvoir ouvrir votre liberté à la grâce de Dieu et lui dire, Seigneur, je te rends grâce d'ouvrir mes yeux sur ce point d'endurcissement dans ma vie, parce que si tu m'ouvres les yeux là-dessus, ça veut dire que tu veux me donner la grâce d'avancer. Ça prendra peut-être du temps, mais je sais que tu me donnes la grâce. Je ne suis pas tout seul. Parce que si le Seigneur vient, c'est qu'il sait bien que tout seul, on n'y arrive pas. C'est parce qu'on n'y arrive pas qu'il vient. Ce n'était pas la peine de mourir sur la croix, sinon, Seigneur, t'embête pas, j'y arrive tout seul. C'est juste une... Je vais me reprendre en main. Non, c'est au-delà de ça. Le Seigneur connaît notre combat, connaît notre faiblesse, et il nous donne sa grâce pour avancer, pour ouvrir un chemin là où il n'y en avait pas. Et donc, Seigneur, si tu me dévoiles mon péché, justement, ce n'est pas pour m'y noyer, c'est parce que tu veux me donner la grâce qui me permettra d'avancer. Et donc, c'est une bonne nouvelle. Le Seigneur ne dévoile jamais le péché pour nous y noyer. Le Seigneur nous dévoile le péché pour nous donner d'en sortir. Parce qu'il nous donne la grâce qui nous permettra d'en sortir. Eh bien, en ce jour de fête de Notre-Dame du Travail, après le « Je crois en un seul Dieu », nous allons être appelés à venir déposer au pied de l'autel un objet qui signifiera, qui symbolisera notre travail, notre occupation. Si nous l'avons apporté, nous pourrons le déposer. Si nous n'avions rien apporté aujourd'hui, ben, nous pourrons nous présenter simplement nous-mêmes. Pour dire justement au Seigneur, tout particulièrement dans ces lieux de mon activité, il y a peut-être un lieu que j'identifie comme étant bloqué. J'y arrive pas. Eh bien Seigneur, je te demande ta grâce par les mains de la Vierge Marie. Seigneur, je crois que mes actes ont des conséquences. Mais je crois justement que tu nous ouvres les yeux pour que nous accueillions la grâce que tu prépares pour nous. Préparons-nous à cette offrande de notre occupation, à cette offrande de notre travail, pour que la grâce de Dieu vienne saisir, transfigurer, sanctifier nos vies. Amen.